Cet épisode est commandité par MAPI.
Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec.
Bonjour à tous et à toutes, mon nom est François Toupin, bienvenue au balado Station Constructo. Cette série d'épisodes traite des défis d'avenir auxquels l'industrie de la construction sera confrontée, les changements climatiques, la rareté de la main-d'œuvre et les potentiels problèmes qui guettent les chaînes d'approvisionnement, pour ne nommer qu'eux. Ça constitue donc tous des facteurs qui risquent d'influencer les prises de décision en construction. Dans cet épisode-ci, nous discuterons de l'érosion des berges. En bordure de l'estuaire, de rivière et du golfe du Saint-Laurent, l'érosion des berges ne cesse de prendre de l'ampleur en raison de la fréquence accrue des tempêtes occasionnées par les changements climatiques. Heureusement, l'expertise développée lors des dernières années en ce qui a trait aux ouvrages de protection permet de freiner ce phénomène naturel et même de mieux préserver la biodiversité des environnements aux abords de ces ouvrages par l'emploi de la végétation, par exemple. Pour en connaître davantage sur l'érosion des berges et les différentes façons d'y faire face, nous discuterons aujourd'hui avec Claudine Breton, ingénieure senior spécialisée en hydraulique chez Fluvio, ainsi que Charles White, directeur général et associé chez Écogénie. Pour sa part, discutera avec nous de l'emploi des plantes pour préserver la biodiversité aux abords des ouvrages de protection. Restez avec nous, à tout de suite. Claudine Breton, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce balado. Nous allons discuter d'un sujet qui est important de plus en plus. On en entend parler, l'érosion des berges. C'est un problème qui est grandissant. Quelle est la définition de l'érosion des berges?
L'érosion des berges, c'est un processus tout à fait naturel. Mm-hmm. Les rivières, c'est pas quelque chose de stable. Il y en a des plus mobiles, il y en a des moins mobiles, mais comme elle permet de faire couler de l'eau, mais elle permet aussi de transporter des sédiments au même titre que l'eau, finalement. Mm-hmm. Alors, c'est normal qu'il y ait des zones d'érosion, des zones de déposition qui fait que la rivière, au fil des années, au fil des événements hydrologiques, elle va évoluer, se modifier, changer un petit peu son parcours, se déplacer. Alors, l'érosion, même ça permet un renouvellement à certains endroits du milieu naturel. Alors, c'est tout à fait normal qu'il y ait de l'érosion.
Mais il y a une limite.
Mais le problème, c'est pas la nature, c'est l'urbanisation.
Ouais.
C'est nous.
Donc, il y a une accélération de l'érosion.
Bien, est-ce qu'il y a une accélération? Oui, probablement. Mm-hmm. Peut-être qu'on va en parler un petit peu tantôt avec les changements climatiques.
Ouais.
Mais c'est surtout que nous, avec l'urbanisation, on est venu bloquer les processus, finalement, de déplacement des rivières. Mm-hmm. Alors, on s'est installé depuis toujours sur le bord de l'eau, puis on s'est mis à construire des infrastructures, les routes, les habitations, les ponts. Alors, on limite l'espace que la rivière a pour se déplacer. Mm-hmm. Alors, quand le déplacement de la rivière devient finalement en péril nos infrastructures, pour nous, ça devient un problème. Et puis, l'urbanisation, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui vont s'installer au bord de l'eau. On a fait du remblai aussi dans certaines zones riveraines. Alors, le problème devient de plus en plus grand, surtout justement à cause de l'urbanisation.
Donc, on peut dire qu'il y a une espèce d'accélération du phénomène. Donc, il faut être vigilant à ce niveau-là.
Oui, c'est sûr qu'il y a des fortes tempêtes,
ouais,
qui surviennent. On en a vu dans le golfe, l'estuaire du Saint-Laurent. Des tempêtes récentes comme Fiona qui a eu en 2022. En décembre 2016, il y a eu des gros dommages aussi sur les côtes en Gaspésie.
Ouais.
Alors, des événements qui causent beaucoup de dommages, il y en a de plus en plus souvent. Ça, c'est ceux qu'on entend parler le plus. Il y en a aussi d'un peu plus de plus faible amplitude, mais quand même aussi important. Par exemple, dans la région de Montréal, les crues de printemps 2017-2019, mm-hmm, ont touché beaucoup les berges de l'île de Montréal, Laval, et puis plein d'autres cours d'eau aussi du sud du Québec. Il y a eu une érosion qui s'est accélérée beaucoup à cause des niveaux d'eau qui ont été très élevés. La crue a duré longtemps. Mm-hmm. Ça, c'est des événements vraiment importants qui touchent beaucoup de gens parce que c'est des zones où il y a beaucoup de population.
Très urbanisé,
oui. Oui, c'est ça. Puis aussi, dans la plus petite échelle, il y a toutes les petites rivières qui traversent plein de petites municipalités qui sont urbanisées. Puis l'urbanisation, ce que ça fait, c'est qu'à des endroits où avant, c'était de la forêt, c'était des milieux humides, mm-hmm, nous, on a remplacé ça par des stationnements, des toitures, des rues. Et puis, ben, on capte l'eau sur ces surfaces-là imperméables qui absorbent vraiment presque plus rien. On met ça dans des égouts, on canalise, on envoie ça dans un cours d'eau qui, même le cours d'eau, lui, souvent, va être linéarisé parce que les méandres, ça prenait trop de place. Fait que tout ça que l'eau, aussitôt qu'il pleut, ben, elle se retrouve dans le cours d'eau rapidement. Et puis, les débits de pointe, les crues sont plus forts dans ces petits cours d'eau-là qui n'étaient pas problématiques avant puis qui deviennent problématiques à cause de tout ça. Mm-hmm. Puis, on va ajouter par-dessus ça ben, l'effet des changements climatiques.
Ouais.
Qui a un effet finalement sur les l'amplitude des crues des pluies pardon les pluies sont beaucoup plus intenses.
J'ai l'exemple et tout le monde a l'exemple des îles de la Madeleine en tête hein, quand il est question d'érosion des berges avec moins de glace en hiver. Donc les glaces qui bougent un peu, ça vient cogner sur les berges, il y a un effritement et sur particulièrement les îles de la Madeleine parce que c'est un sable hein, c'est un écosystème très fragile.
Alors oui, c'est ça, les changements climatiques, ben c'est ça, parmi les effets qui ont les plus marqués, c'est ça, j'ai parlé de l'intensité des pluies qui causent des crues dans les plus petits cours d'eau surtout, mais il y a aussi l'effet que le réchauffement fait que la période de présence des glaces le long des berges devient plus courte. Mm-hmm. L'hiver glaciologique va durer moins longtemps. Et puis les glaces le long des berges, ça offre quand même une protection très importante. Parce qu'il y a des grosses tempêtes qui surviennent, par exemple, au mois de décembre. Et puis, ça va faire toute la différence s'il y a une berge de glace ou s'il n'y en a pas ou si vraiment tout est en eau libre.
La glace sert de protection?
Oui, complètement, complètement. Mmh. Les vagues, au lieu de venir taper sur la berge, vont taper sur la glace. Ça ne fera pas du tout le même effet érosif. Là.
Est-ce que les solutions ont évolué au cours des dernières années? Par exemple, l'utilisation de plantes versus l'enrochement?
Oui, effectivement. Là, c'est en évolution présentement. Ça commence à évoluer, mais là, on est vraiment dans une période de changement. Les attentes, finalement, ne sont plus les mêmes du tout des clients des municipalités. Là, il faut vraiment toujours envisager le génie végétal parmi les solutions. Et puis ça vient avec une prise de conscience de la valeur environnementale des milieux humides. Maintenant, on va chercher, quand on fait un projet de stabilisation de berge, à augmenter la biodiversité de la berge, d'augmenter ses fonctions écologiques par la même occasion. Mm-hmm. Par exemple, si on rajoute de la végétation sur la berge, on va permettre, par exemple, de créer de l'ombrage sur le cours d'eau, surtout pour les plus petits cours d'eau. Alors, on va limiter le réchauffement de l'eau, mm-hmm. ce qui va permettre de conserver un plus haut taux d'oxygène dans l'eau. Puis, ça, c'est vraiment nécessaire pour la faune aquatique. La berge végétalisée va aussi faire une certaine filtration des sédiments qui vont venir par le ruissellement. Elle va permettre une certaine épuration de l'eau.
Oui, on peut mettre de la végétation, remettre des plantes. Il y a de l'enrochement aussi. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'on peut apporter aux berges?
Bien, le plus souvent, c'est qu'on va évaluer, c'est quoi les facteurs érosifs là, qui sont là. On parle de vagues, on parle de courant, on parle de glace. Et puis, on va combiner des solutions selon, finalement, l'amplitude de ces contraintes-là. Mm-hmm. Parce que, le génie végétal comme tel, des fois, ne sera pas assez robuste pour faire face à certaines conditions. Mm-hmm. Si les vagues sont trop fortes, les coups, des fois, les glaces, il y a des débâcles qui peuvent vraiment tout arracher la végétation. Alors, à ce moment-là, on n'aura pas le choix de combiner du minéral et du végétal.
Okay.
D'ailleurs, c'est ça que la nature fait. Si on regarde un cours d'eau, on observe les berges, jusqu'au niveau finalement moyen des hautes eaux à peu près, ce qu'on voit, c'est de la roche, ça va être du sable, ça va être du til, ça va être un recouvrement qui... Le fond de la rivière ou les berges, le bas des berges va être minéral, sans végétation. Et puis, au-dessus de cette limite-là, ça va être la végétation très, très dense, des arbustes, des herbacées, après ça, les arbres qui embarquent. Mm-hmm. Fait que l'idée, pour nous, c'est la solution idéale, c'est de combiner la végétation et le minéral comme la nature le fait. On regarde la rivière, puis on mm-hmm. s'en inspire pour créer nos solutions.
De recréer ce qui est censé être, finalement, oui. quand on a reconstruit quelque chose sur les berges ou pas tellement loin.
Puis ça reste aussi la protection de berges. Par contre, c'est un ouvrage de génie civil.
Ouais.
Si on doit protéger des infrastructures, des routes, des maisons, des ponts, peu importe, il faut vraiment s'assurer que la conception, on est sûr de notre résultat. Mm-hmm. Pour l'ingénieur, il doit garantir le résultat. Puis au Québec, on n'est pas encore habitué, on n'a pas développé l'expertise pour être capable de vraiment évaluer c'est quoi la résistance des ouvrages de génie végétal. Mm-hmm. Alors, ben le plus souvent, on va y aller au plus simple, on va être sûr que ça tient, fait qu'on y va, on met l'enrochement, on met un mur, c'est ça, on y va pour être certain. Fait que si on veut aller vers plus de génie végétal, ben il va falloir tranquillement que notre expertise se développe, puis à mm-hmm. mesure que notre expertise se développe, il va y avoir de plus en plus de projets qui vont intégrer le génie végétal.
Serait-il important de prévoir la conception des infrastructures en intégrant l'impact des changements climatiques sur l'érosion des berges? De quelle façon on pourrait faire ça?
Ben oui, c'est essentiel parce que quand on construit des infrastructures, quand on les conçoit, on a toujours en tête un horizon, une durée de vie de 50 ans, 100 ans, ouais. et même plus pour des gros ouvrages comme le pont Champlain ou des ponts majeurs comme ça. Fait que c'est sûr qu'il faut intégrer l'impact des changements climatiques qui vont modifier nos critères de conception. Au moins, tu sais, on le sait déjà, on est déjà capable d'anticiper ça va être quoi finalement dans un horizon de 50 ans. Est-ce que les niveaux d'eau vont changer, les crues vont changer, la glace, les conditions de glace vont changer. Alors, oui, il faut intégrer tout ça. Il existe des indices qui ont été développés, des indices climatiques, et puis qui sont basés sur des modèles vraiment qui considèrent différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Émissions faibles, émissions moyennes, émissions fortes, selon qu'on est plus ou moins pessimiste ou optimiste sur comment qu'on va finalement réussir à réduire nos émissions. Puis avec des modèles climatiques comme ça, il y a moyen de traduire ça en, par exemple, sur les débits. Des rivières, on va dire, ben là, le débit qu'on aurait calculé, qu'on calculerait maintenant, il faut l'augmenter, par exemple, de 20 % à cet endroit-là. C'est sûr que les changements climatiques, ça va changer selon la rivière, sa taille de bassin versant. C'est une petite rivière, elle va être affectée différemment d'une grande rivière. Ça va changer selon qu'on se retrouve au nord du Québec. Au sud.
C'est ce que j'allais dire, géographiquement aussi,
ça peut changer. Oui, c'est complètement différent. Par exemple, sur la côte nord ou dans la région de Montréal, l'effet des changements climatiques va se traduire de différentes façons. Justement, dans le sud du Québec, c'est surtout l'intensité des pluies qui va être plus forte, l'intensité des pluies qui surviennent durant la période d'été, automne, qui va augmenter les débits de crues pour les petites rivières.
Ouais.
Pour les grandes rivières, comme le fleuve, tout ça, il n'y a pas vraiment de consensus établi. On ne sait pas si vraiment il va y avoir des changements. Par contre, la glace, on sait aussi que la période de présence de glace va être plus courte. Puis ça, c'est dans le sud du Québec, mais probablement aussi dans le nord aussi.
Oui, puis on en a parlé aux îles de la Madeleine, la Basse-Côte-Nord, très touchée par les gros morceaux de glace.
Il y a un facteur important aussi qu'on doit intégrer dans nos critères de conception, qui touche toute la zone golfe du Saint-Laurent, l'estuaire, c'est le rehaussement du niveau des mers. Si on regarde, si on se projette dans 30 ans, 50 ans, 80 ans, comme la durée de vie de nos ouvrages, bien là, c'est le niveau des mers, les prévisions qui sont faites maintenant avec les modèles climatiques, c'est pas de 1 ou 2 cm que ça va monter, ça va de plusieurs dizaines de centimètres. Alors, quand on conçoit un ouvrage ou une stabilisation de berge, il faut considérer que peut-être les vagues, elles vont taper 50 cm plus haut.
Il faut prendre ça en considération.
80 cm plus haut. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment l'intégrer dans nos critères de conception.
D'accord. Donc, en conclusion, dans le futur, pour les constructions qu'on y fera sur les berges, ça va prendre de plus en plus une spécialisation. Il va falloir que l'industrie de la construction s'adapte et soit vraiment spécialisée. C'est pas n'importe qui va pouvoir faire n'importe quoi.
Ben oui, effectivement, parce que déjà en partant, déjà actuellement, même en s'en tenant à de la stabilisation avec des techniques minérales, les travaux de stabilisation de berge, c'est déjà complexe parce qu'on travaille dans un talus, parfois très haut, parfois très incliné, instable, et on est au bord de l'eau. On a à travailler finalement le pied de talus où se fait l'érosion le plus, on doit travailler dans l'eau. Alors, c'est ça, ça demande déjà des compétences qui sont quand même particulières, un équipement aussi adapté. Les accès à la machinerie doivent être planifiés. Des fois, ça prend vraiment un peu d'imagination pour réussir amener tout l'équipement qu'il faut au bon endroit pour faire les travaux demandés. Et puis, il faut tenir compte aussi des restrictions environnementales, évidemment, parce qu'on ne peut pas travailler dans un cours d'eau comme on veut, quand on veut. Mm-hmm. Il y a des périodes prévues. Et puis, quand on travaille, bien, il y a beaucoup de précautions à prendre pour ne pas générer, par exemple, de panache de sédiments ou d'endommager certaines zones là, qui doivent être préservées. Et puis, finalement aussi, quand on va parler de génie végétal, à ce moment-là, il faut savoir manipuler les plantes. Il faut les planter aussi au bon moment pour qu'elles puissent mm-hmm. se régénérer. Tout ça, c'est une technique, ça peut devenir vraiment une spécialité en soi.
Tout à fait, ça. Tout ça rentre en ligne de compte. Claudine Breton, ingénieure senior spécialisée en hydraulique chez Fluvio, merci beaucoup d'avoir participé à notre balado aujourd'hui.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Merci. On poursuit la discussion dans ce balado sur l'érosion des berges. J'ai en ma compagnie Charles White au téléphone. Charles White est le directeur général et associé chez Écogénie. Bonjour, Monsieur White.
Bonjour, Monsieur Coupin.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un spécialiste dans le domaine. Comment peut-on mettre les plantes à profit lors de la réalisation d'ouvrages de protection des berges?
En fait, il y a plusieurs façons de le faire, là. C'est rien de nouveau là, de mettre les plantes à profit là, pour la stabilisation, soit de berges ou de talus, là, ou la consolidation de berges. En fait, on retrouve des traces là, même depuis Léonard de Vinci au 16e siècle, où lui, justement, faisait des croquis, des dessins, où il proposait d'utiliser des saules en ordure de canon. Après ça, 19e siècle, il y a des traces aussi historiques de l'utilisation des végétaux pour les stabilisations de talus, mm-hmm. surtout les glissements de terrain. Je dirais que c'est revenu à la mode de manière contemporaine, plus dans les années 50, en Autriche, dans les Alpes, où il y a beaucoup de cours d'eau torrentiels et tout ça. Mm. Puis au Québec, tout ça est arrivé plutôt là, dans les années 90, inspiré principalement d'un certain Bernard Lachat, qui a beaucoup développé les techniques de stabilisation à l'aide de végétaux. Puis c'est ça, le fondateur d'Écogénie, M. Benoît Houde, là, qui lui diriger les premiers projets pilotes au Québec là, en fin des années 80-90, qui a participé à la rédaction de guides. Donc, c'est un peu la redécouverte là, de ces façons-là ancestrales, de dire oui, on peut mettre les plantes à profit mm-hmm. dans la réalisation de divers ouvrages et aussi des ouvrages de protection de berges. C'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer, à savoir comment mettre les plantes à profit. Là, justement, on peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment ouais. dans toutes les situations. Donc, il y a des éléments pour les mettre à profit adéquatement, justement, qui sont à considérer, ce qu'on appelle généralement des paramètres de conception. Je peux vous énumérer principalement ceux qu'on utilise. Donc, il y a des paramètres hydrauliques qui sont à considérer, soit les vitesses d'écoulement d'eau, les hauteurs d'eau, les différentes cotes de crue, ou les marées, ça c'est, bon, on parle plus dépasser là, Trois-Rivières vers l'est du Québec où on a des marées. Mm-hmm. Après ça, toutes les vagues, on conçoit pas les ouvrages avec les plantes de la même façon s'il y a des bateaux qui passent qui font des grosses vagues sur les berges.
Ouais.
Ensuite, certains aspects hydrogéomorphologiques pour mettre les plantes à profit qui sont à considérer comme les pentes. Plus les pentes sont faibles, plus on peut utiliser les plantes uniquement. Puis évidemment, plus les pentes sont fortes, parfois il faut allier certains ouvrages, là, plus de génie civil, où on va utiliser des plantes et des enrochements ou différents ouvrages comme des caissons de bois, là, des caissons végétalisés. Mm-hmm. Après ça, évidemment, la morphologie du cours d'eau, on va pas stabiliser les berges de la même façon dans des rives concaves ou convexes, qui sont soit en accumulation ou en érosion. La nature des dépôts, si c'est de l'argile, des sables, du roc affleurant, roc égrené, aussi là, faut évaluer la formation de glace. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres à considérer pour utiliser les plantes. On peut vraiment choisir les plantes qui sont les plus appropriées en fonction de ces différents paramètres-là. Puis, comment aussi on peut les mettre à profit dans les ouvrages, c'est toute la notion de ce qui est service écosystémique là, qu'on redécouvre, là, je dirais aussi, dans la réglementation provinciale et fédérale, là, c'est-à-dire Pêche et Océan et le ministère de la Faune et le ministère de l'Environnement ont intégré dans la législation toute la notion de service écosystémique, d'habitat faunique, associé évidemment à l'habitat du poisson. En fait, là, c'est rendu même une exigence de mettre à profit l'usage des plantes pour les ouvrages de protection de berge, ce qui a trait à la création ou l'habitat faunique, à la biodiversité aussi, parce qu'on sait que ces milieux-là, c'est des milieux particuliers, ce qui en arrive, puis aussi ce qui les milieux là, qui sont compris entre les niveaux d'étiage et les crues ou entre les marées, c'est des milieux très particuliers où certaines espèces vont se développer, dont certaines espèces rares qu'on a uniquement au Québec. Et bon, une fois qu'on a tous ces paramètres-là, ben à ce moment-là, c'est comme ça qu'on met les plantes à profit nous, dans les ouvrages de protection de berge. Donc, ça demande beaucoup de connaissances. Mais on voit que c'est possible de le faire et même souhaitable et même souhaité maintenant par la législation provinciale et fédérale.
Vous en avez glissé un mot précédemment. Quels en sont les avantages d'utiliser des plantes? Oui, l'écosystème, la diversité, tout ça. Mais les plus gros avantages seraient quoi?
Oui, effectivement, ben, les avantages sont nombreux. D'un, pour faire accepter nos projets quand on est un développeur de projets, pour obtenir ce qu'on appelle là, les autorisations ministérielles, là, que ce soit fédérales ou provinciales. Ça, c'est un avantage du point de vue du promoteur. Mais au niveau de la société, des milieux, des écosystèmes, c'est ça, il y a plusieurs avantages. Puis cela dit, l'érosion n'est pas un problème nécessairement, dans le sens que c'est des processus géomorphologiques naturels.
Oui.
Le transport de sédiments est important pour les frayeurs, les poissons, bon, différents phénomènes. Les poissons vont utiliser des fois les ondes d'assouillement pour se cacher en dessous des racines, tout ça. Mm-hmm. Fait qu'il faut bien avoir ça en tête, mais effectivement, quand c'est nécessaire d'effectuer une stabilisation, une consolidation de rive, ben, il faut le faire comme il faut, là, quand il y a une route à protéger, un bâtiment, faire des aménagements comme ça. Puis les avantages qu'on peut en tirer ben, d'utiliser des végétaux, des plantes, lorsqu'on doit stabiliser. Les premiers, je dirais, c'est au niveau de la rétention des polluants. C'est-à-dire que, par exemple, dans les milieux agricoles ou même des milieux résidentiels où les gens vont mettre des engrais sur leur terrain, bon, ben, ces engrais-là vont migrer dans les sols puis généralement se retrouver dans les cours d'eau. Puis on sait que... Par exemple, le phosphore, l'azote, ça favorise l'eutrophisation des lacs, le développement des algues et tout ça. Donc, toutes les plantes en rive vont capter une partie des nutriments qui migrent, puis effectivement dépolluer là, ou contribuer à réduire l'apport de polluants dans les cours d'eau. Puis, bon, c'est pas juste les plantes, là aussi, il y a ce qu'on appelle le microbiome racinaire. Là, c'est tout ce qui est la synergie entre les bactéries, les champignons du sol avec les plantes et les racines des plantes.
Mm-hmm.
Ensuite, il y a une régulation des niveaux d'eau. C'est sûr que c'est relatif, ça dépend du nombre de plantes, mais les racines vont capter l'eau qui migre dans les sols, puis ça fait moins d'eau qui va dans les cours d'eau rapidement. On sait bien qu'on a beaucoup de cours d'eau qui vont fluctuer rapidement parce que toutes les surfaces imperméabilisées font que le temps de concentration de l'eau et court, puis les eaux se rendent rapidement dans les cours d'eau, puis on se retrouve des fois avec une crue de 2 mètres en l'espace de quelques minutes. Là. Donc, le fait d'avoir des plantes vont justement aider à capter ces eaux-là, les retenir, puis après ça, les relarguer par évapotranspiration ou d'autres phénomènes là, de manière plus étalée dans le temps. D'autres avantages d'utiliser des plantes, la diversité biologique, ensuite, quoi d'autre? Comme vous voyez, il y a beaucoup d'avantages. Oui. On ne les dira pas tous. Là.
On doit s'assurer d'une bonne coordination aussi des travaux lorsqu'on souhaite mettre les plantes à profit près des ouvrages de protection.
Effectivement, c'est un bon point que vous amenez. Ça change la donne pour les entrepreneurs généraux. Mais c'est sûr, vous, c'est pour Constructo, c'est une revue.
Tout à fait.
J'imagine que c'est beaucoup les entrepreneurs généraux qui suivent
le
balado. Puis pour eux, ça constitue un changement. D'emblée, c'est sûr que l'expertise est en train de se créer au Québec, mais il n'y en a pas tant que ça d'entrepreneurs généraux qui sont habitués de fonctionner comme ça. Généralement, un entrepreneur qui va travailler en berge va avoir son équipe de terrassement, il va excaver sa clé, il va profiler ses talus, mettre son jour textile, après ça, commencer à monter son enrochement. Puis si la végétation en haut de talus il va faire venir son sous-traitant en aménagement paysager après coup.
Ouais.
L'intégration de végétation par les phytotechnologies, là, le génie végétal, où ça vient changer la donne, c'est que l'entrepreneur en général doit considérer maintenant travailler en collaboration, à moins qu'il développe les services dans sa propre entreprise ou avec un sous-traitant, là, doit collaborer avec celui qui va venir installer les plantes. Par exemple, si on fait un enrochement végétalisé de type riprap ou un rochement avec plançon, je dirais que c'est celui qui demande le plus de coordination. Là, c'est-à-dire que c'est construit un peu comme un sandwich où l'entrepreneur général doit s'assurer de bien respecter les élévations qui sont au plan, parce que là c'est des plantes, donc c'est du vivant, il faut les placer aux bons endroits. Puis, mettons, il va faire un premier rang de pierre, après ça, il va mettre de la terre. Là, il faut que l'équipe, soit de paysagement, là, vienne installer les branches. Puis après ça, l'entrepreneur général va continuer à monter un autre étage d'enrochement. Donc, ça se fait par étapes comme ça. Il va nécessiter effectivement une meilleure coordination là, ou une bonne coordination entre l'entrepreneur général, l'équipe de terrassement et l'équipe, mettons, qui s'occupe de la végétalisation.
Mmh.
C'est ça, une très bonne coordination. Il faut être conscient là, de tout ce que ça peut ajouter comme contrainte, mais comme on a discuté avant, là, les avantages, mon sens, dépassent largement les désavantages. Puis, c'est sûr que c'est l'avenir.
Oui, puis une bonne spécialisation aussi dans le domaine qui va aider à contraindre le phénomène un peu de l'érosion.
Tout à fait.
Monsieur Charles White, c'est tout le temps que nous avons et je vous remercie beaucoup de votre participation à notre balado aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Merci, au plaisir.
Au plaisir, au revoir.
C'est ce qui termine cet épisode du balado Station Constructo qui nous permet de relancer la discussion sur l'érosion des berges. Nous souhaitons remercier Claudine Breton et Charles White pour leur participation ainsi que MAPI qui est notre commanditaire pour cette série. Nous vous remercions pour votre écoute. Suivez Station Constructo sur l'une de vos plateformes préférées et sur les réseaux sociaux aussi pour rester à l'affût de la sortie de notre prochaine série d'épisodes. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci et à très bientôt!